Le congrès et salon des professionnels de l'immobilier FNAIM, les 29 et 30 novembre 2021, au Carrousel du Louvre, et le 1er décembre pour une journée 100% digitale, en partenariat avec Bien Ici, Galian et Airpro.com sur Radio Immo.
Et on arrive au terme de ce congrès, effectivement, cette troisième journée digitale en ce 1er décembre d'un congrès un peu particulier où tout le monde était heureux de se retrouver en direct de ce Carrousel du Louvre pendant deux jours. Une journée digitale, on a poursuivi des ateliers, on a la chance, le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous sur le plateau de Radio Immo Henri Buzicazo, qu'on ne présente plus sur les antennes de Radio.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Henri. Merci d'être avec nous en cette fin de journée et fin de congrès. Vous êtes le président de l'IMSI. On vous entend souvent sur les antennes, je le disais, de Radio Immo. Déjà à chaud, à l'issue de ces trois jours, quel est votre sentiment sur ce congrès, comme je le disais, un peu atypique?
Déjà un peu d'émotion parce que oui, aujourd'hui je préside l'IMSI, je suis souvent avec vous, mais enfin j'ai organisé 8 congrès de la FNAIM. Voilà, j'ai été à deux reprises. Ouais, exactement. Bon, j'ai eu cet honneur et les fins de congrès, c'est des moments particuliers. Et là, je me retrouve un peu dans cette ambiance. C'est dur une fin de congrès en fait. Voilà, parce qu'il y a eu cet enthousiasme, cette adrénaline. Je m'y suis associé cette année. J'ai été plus présent que ces dernières années. Je suis intervenu à l'invitation de la fédération. J'ai été assidu au débat, aux plénières, aux ateliers. Un très beau congrès pour plusieurs raisons. La fréquentation, et c'était pas évident. D'ailleurs, je crois que les inscriptions ont été tardives. Il y avait des inquiétudes. Cette période est très particulière.
Les inscriptions des participants, mais aussi les inscriptions des exposants ont été assez tardives.
Tout à fait. Bon, période très particulière, en manque de visibilité. Et puis, effectivement, il y avait l'enthousiasme de se retrouver. Il a fonctionné. Au bout du compte, il aurait fallu pousser les murs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un programme intéressant. Une année particulière, préélectorale.
Alors justement, on va en parler.
On va y revenir. Pré-présidentielle, pré-législative. Et la fédération a été au rendez-vous de l'histoire, d'une manière générale, avec les ateliers notamment, ou digitaux aujourd'hui, ou physiques les deux jours précédents, des thèmes qui étaient bien choisis, opportuns, et qui ont rassemblé un très grand nombre de professionnels, qu'on ait parlé d'assurance, de marketing, de valorisation du savoir-faire des professionnels, enfin voilà, les thèmes, tout ça était très bien, donc une réussite dans un lieu qui reste magique.
Alors, un lieu magique. Alors c'est vrai qu'on était un peu à l'étroit, mais pour des raisons
c'est mieux que l'inverse.
C'est vrai que cette année il y avait des choix qui avaient été faits aussi parce que la fédération avait souhaité conserver l'hybridation. Alors c'est un mot dont on parle beaucoup depuis la Covid, effectivement, donc de manière à permettre une large visibilité de ces contenus. Alors vous l'avez évoqué rapidement, on va peut-être y revenir maintenant sur les enjeux électoraux de la présidentielle. La FNAIM a fait venir dans des plénières un représentant des candidats à l'élection présidentielle de chaque
grande sensibilité.
Oui. Politique. On a eu deux candidats eux-mêmes qui étaient présents, c'était Arnaud Montebourg et Marine Le Pen. Les autres étaient représentés. On a eu également une introduction avec la ministre Emmanuelle Wargon. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été évoqué par chacune de ces personnalités politiques?
Alors d'abord, c'était la première fois que la fédération organisait un tel événement. C'est-à-dire faisait s'exprimer les grandes sensibilités à la veille d'une grande élection nationale, de deux grandes élections nationales. Je rappelle qu'il y a les législatives qui suivront les présidentielles. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que la fédération compte vis-à-vis des pouvoirs publics. Vous savez, par le passé, qui organisait ça? La fédération du bâtiment. une très grande maison. Les autres ont pu s'y essayer, mais la fédération ne l'avait jamais fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je considère, et je serais même un petit peu plus indulgent que l'a été le président Torlion quand il a décortiqué le débat qui a eu lieu, enfin les expressions des différents représentants. Il y a de la part des grandes familles politiques un intérêt pour le logement. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est assez expert ou compétent?
C'est pas toujours ce qui transparaît dans le débat. Ben,
c'est pas toujours ce qui transparaît. Maintenant, le fait qu'ils soient venus ou qu'ils aient envoyé des personnalités de premier plan, parce que c'est ce qui s'est passé, pour moi, c'est un témoignage. Et ce que j'ai entendu, pour moi, montrer qu'il y avait une compétence. Alors, elle est plus ou moins forte. Quand on entend s'exprimer, c'est elle qui avait été choisie, la sénatrice Estrosi Sassone, au nom de Xavier Bertrand. C'est une grande spécialiste du logement au Sénat, au Parlement. Bah oui, elle a un discours très appliqué, très très précis. Bon, quand on écoute Pierre Lescure au nom de La République en Marche, qui n'a toujours pas de candidat, rappelons-le, au moment où on parle, on a un discours qui évidemment est moins précis. Qui a de la hauteur, mais qui est moins précis. On avait des niveaux de discours qui n'étaient pas les mêmes. Lorsqu'on écoute les deux candidats qui sont personnellement venus, Montebourg ou Marine Le Pen, j'ai trouvé qu'il y avait un effort quand même d'application. Ils avaient travaillé. Voilà, ils avaient travaillé. Je le dis, le discours de Marine Le Pen était très précis. Tout a été évoqué, comme d'autres l'ont fait. La fiscalité, la construction, le logement social, la défense des propriétaires. Enfin voilà, il y a eu un travail de la part de ces organisations. Et ils l'ont fait, peut-être pour certains, parce que la fédération les a invités, mais pour d'autres, je le sais, pour être tout à fait honnête, pour d'autres sensibilités qui se sont exprimées, la plupart d'entre elles, ils ont travaillé sur le dossier logement. Alors on verra ce que ça donne demain, il y a eu des promesses, il y a eu des engagements. J'ai quand même l'impression que, jamais assez à mes yeux, mais que le dossier logement, on le perçoit enfin comme essentiel. Avec toutes les dimensions, économiques, sociales, environnementales, évidemment, jusqu'au remords, parce que La République en Marche, moi je suis pas satisfait de ce quinquennat pour le logement, voilà, Lescure a fait gentiment amende honorable. Bon, il n'a pas pu s'empêcher de faire un petit bilan quand on les a fait. Hein, on ne peut pas parler que des 5 ans qui viennent. On vous dit, mais vous avez fait quoi pendant les 5 dernières années? Non, ça n'a pas été un grand quinquennat pour le logement. Et je vois que même ce parti majoritaire, je ne sais pas si demain il redonnera au pays un président de la République, peut-être le même, je n'en sais rien, mais en tout état de cause, je suis convaincu qu'il y aura une attention au logement que nous n'avons pas eue pendant les 5 dernières années. Voilà.
Bon, eh ben écoutez, on espère effectivement que les mois qui viennent vont donner raison à ce que vous dites et que le sujet logement va devenir un sujet vraiment prioritaire. Ouais. Comme l'est aussi le sujet autour des enjeux, autour de la rénovation, la transition énergétique, puisque c'est aussi l'un des enjeux essentiels, oui, autour de la problématique logement. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs sur ces sujets qui ont été évoqués par ailleurs au travers des ateliers ou des plénières? Alors, également, c'était aussi un sujet fort de ce congrès.
Une première chose, c'est qu'il y a une inquiétude de tout le corps professionnel, les gestionnaires locatifs, les syndics, les agents immobiliers. Comment va-t-on y arriver? Bon. Puisque là, on a une feuille de route exigeante qui est donnée par la loi climat-résilience. On a une grosse dizaine d'années, 2034, c'est l'échéance, pour mettre à niveau le parc locatif, mais aussi les résidences principales, d'ailleurs, en copropriété, mais aussi les maisons individuelles. Bon, on va pas détailler le dispositif, c'est pas le moment. Mais en tout cas, il faut y aller. Une inquiétude sur les moyens. Une volonté de le faire. Alors, la volonté, elle est imprimée, insufflée par la fédération, par exemple. Bon, pour ses adhérents, est-ce que tous ont le même enthousiasme? Je crois qu'ils suivent leur fédération. Voilà. Je dis aussi que politiquement, on a entendu des candidats qui pour la plupart, ont conscience que c'est pas facile d'y arriver. Où va-t-on trouver l'argent quand on est un propriétaire? Est-ce que les aides suffisent? Est-ce que les dispositifs sont clairs? Est-ce que les diagnostics sont fiables? En fait, toutes les questions se posent. Bon. Il le réalise. Franchement, dans les discours que j'ai entendus, on ne peut pas dire qu'il y a d'inconscience. Et après, pour finir, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, dans la profession ou même dans la classe politique, allez, 2034, ça ne suffira pas, on rajoutera 5 ans, on rajoutera 10 ans. Bon, déjà, dans la vie, quand on se donne une échéance, ça fait accélérer. Et après, on voit si on peut la tenir. On voit si on peut la tenir. Le législateur, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, fera le point. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il y aura du réalisme. Il ne peut pas en être autrement. Mais je ne suis pas de ceux qui disent il faut repousser aujourd'hui. L'encre de la loi n'est pas sèche encore. 22 août 2021. Je ne suis pas de ceux qui disent il faut repousser. Vous savez, moi, je suis président d'école. Vous savez, quand vous devez rendre une copie, si vous donnez pas d'échéance à un étudiant, je l'ai été aussi, hein, il vous la rend jamais. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, après, l'indulgence peut jouer. Il vous explique qu'il a eu tel et tel problème. Allez, vous rajoutez 2 jours. Mais vous commencez pas par lui dire, ne t'inquiète pas, tu la rends quand tu veux. Ça n'arrive pas. Donc, on a une contrainte aujourd'hui, c'est une pression qu'il faut accepter. Il faut s'équiper, il faut se former. La fédération fait beaucoup avec Copro Verte, vous connaissez le dispositif. Il n'y a pas assez de professionnels qui se forment, je le dis franchement. Il y a des sessions qui ne sont pas assez remplies. Donc il faut y aller. Il faut changer de braquet. Aujourd'hui, un syndic, ben, il va devoir faire de l'ingénierie financière, comme on dit. Il va s'intéresser aux moyens de financement. Il va devoir s'intéresser davantage à la programmation des travaux. Plan pluriannuel de travaux sur 10 ans. Les métiers vont changer. Et vous voyez, ma profonde conviction... puisque je vois des jeunes ou des moins jeunes qui vont vers ces métiers-là, ils vont gagner un intérêt, en attractivité. Parce qu'on ne fait pas Bac plus 5, aujourd'hui c'est ça, pour régler seulement les problèmes quotidiens d'une copropriété ou d'un propriétaire ou d'un locataire. Ce n'est pas vrai. On veut une projection patrimoniale. C'est ça qui est proposé aussi. Et je trouve que c'est sexy, voilà, pour être honnête. Alors oui, c'est vertigineux, on peut se poser 1000 questions. J'ai pas trouvé que ce congrès, malgré l'inquiétude, était un congrès sombre. Voilà, c'est une inquiétude. On pouvait le redouter. Tout ça est terrible, ça nous tombe dessus. J'ai pas senti ça. Voilà, dans les couloirs, on se pose des questions, mais il y a des réponses.
Alors ça, c'était aussi un sujet, vous l'avez évoqué aussi entre les lignes, on parlait de la jeunesse, c'était aussi un sujet, oui. L'une des thématiques portées par la FNAIM sur ce congrès. Oui,
il y avait 3 étudiants de l'école qui ont interpellé la ministre,
oui,
c'était très bien.
Oui, a priori, effectivement, alors moi je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé, ouais. De manière assez directe au niveau de la ministre, mais ça c'est un sujet effectivement assez important aussi, vous l'avez dit, la formation... l'envie aussi d'aller sur certains métiers où on a des difficultés de recrutement, c'est le cas notamment en copropriété.
C'est clair.
C'est vrai que tous les étudiants qui font de l'immobilier aujourd'hui dans des écoles, et vous en avez tous les jours, sont plutôt enclins à aller vers la Transac parce que on est plus attiré par Stéphane Plaza que par aller régler des problèmes de plomberie dans une copro. Et donc justement, quels sont là aussi les leviers pour permettre à cette jeunesse de s'intéresser à des métiers qui sont des métiers passionnant, puisque c'est des sujets de société, de mieux vivre ensemble, effectivement de faire avancer justement la société, la transition écologique, bah, évidemment, ça c'est un sujet de société aussi, et justement quand on travaille en copropriété, on accompagne ces thématiques.
Oui.
Comment on fait pour justement permettre à ces jeunes d'avoir envie d'aller dans ces métiers?
D'abord, les jeunes ou les moins jeunes. Il y a beaucoup de reconversions dans nos écoles. J'ai toujours soin de parler des deux. Ils ont compris une chose sur l'immobilier. Je ne sais pas si leurs prédécesseurs l'avaient tous compris ou au même degré, je le dis franchement. C'est que ce sont des métiers qui ont du sens. C'est l'expression consacrée, mais c'est très vrai aujourd'hui. Il y a une responsabilité sociale ou sociétale qu'on n'a pas à aller chercher loin. Et quand on vous explique que vous êtes au cœur de la transition environnementale, parce que ce secteur est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Bon, donc, bref, il faut corriger tout ça. Et au passage, valoriser les immeubles, changer les habitudes de vie, changer les process de construction, de rénovation. Ces métiers sont transfigurés. Les jeunes aujourd'hui ont une aspiration, pas seulement à gagner de l'argent légitime, mais à être utile, voire indispensable. J'ai le sentiment que, à ce jeu-là, y compris les métiers qui étaient un peu disqualifiés, qui étaient moins sexy, ils reprennent, ils remontent en gamme, voilà. Oui, le métier de syndic, tel que le législateur l'a écrit, là, dans la loi de climat-résilience, eh ben, il est plus intéressant que le métier qu'on imaginait, beaucoup plus intéressant. Moi, je suis content de dire à un étudiant qui prend la peine de faire des études spécialisées à un haut niveau, ben, désormais, tu vas pouvoir programmer l'évolution physique, technique, et donc la valeur de l'immeuble sur 10 ans. La perspective, c'est pas la même. C'est-à-dire que les professionnels, y compris en transaction, ils regardaient beaucoup le tableau de bord. Ça pouvait être bien, ça pouvait faire des vies professionnelles honorables. Maintenant, il faut regarder la route. Il y a un cap. Il n'y avait pas de cap. Voilà, on vendait des logements. Parce que le même problème va se poser pour les agents immobiliers. Les agents immobiliers, ils voient bien que la matière première qu'ils ont en main n'est plus la même. Qu'est-ce qu'on va faire dans le logement qui est une passoire énergétique? Est-ce que même on va pouvoir la vendre telle quelle? Il y a des banques aujourd'hui qui refusent des prêts pour des passoires énergétiques. Voilà. Donc, il va falloir les rénover, organiser le financement, tout ça. L'agent immobilier va changer de paradigme, lui aussi. Et la même exigence va peser sur lui, sur le gestionnaire locatif, sur le idem en logement social. C'est 100 milliards d'euros qu'il faut exposer dans le logement social. La présidente de l'USH en a fait le calcul, pour le mettre à niveau, ce parc social locatif, avant 2034, 100 milliards d'euros. Ben, les gestionnaires, j'en forme, 1 sur 6 diplômés de nos écoles, ils vont vers le logement social. Et ben, c'est pas la même chose qu'ils vont faire. Ils vont faire de l'ingénierie financière, ils vont faire... Et je pense qu'ils peuvent bomber le torse, quoi. Il faut un travail de valorisation patrimoniale pour le pays, hein. Il y a 38 millions de résidences principales. C'est la richesse des Français. Voilà, donc je suis très optimiste sur cette évolution du regard sur des métiers qui vont appeler qu'on les regarde différemment, quoi.
Eh bien, c'est sur cette note d'optimisme qu'on va se quitter, Henri Buzicazo.
Merci beaucoup, Olivier, encore de
nous avoir accordé quelques minutes en qualité d'observateur éclairé de la vie immobilière au terme de ce congrès FNAIM 2021. Et donc, souhaitons que 2022 souhaite une année...
Un bon millésime aussi.
Pleine d'espoir et donc de réussite sur tous ces sujets. Merci Henri Buzicazo. À très bientôt sur Radio Immo.
Le congrès et salon des professionnels de l'immobilier FNAIM, les 29 et 30 novembre 2021, au Carrousel du Louvre. Et le 1er décembre pour une journée 100% digitale, en partenariat avec Bien Ici, Galian et Airpro.com sur Radio Immo.